Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-21h, Top of the Foot.
Spécial UEFA Euro 2020, Mohamed Bouafsi, Jean Huitour.
Il est 20h, on est donc en édition spéciale Euro jusqu'à 21h. Ce sera le cas tout au long de la semaine. L'Euro, ça commence vendredi et on va en parler en longueur avec Coach Courbis. Salut coach.
Salut Roland.
Salut les amis, salut à tous.
Alors on va revenir avec toi sur les infos équipe de France et on fera un tour d'Europe comme tous les soirs. Ce soir, il y a Allemagne, Lettonie. Paulo Breitner viendra nous parler de cette rencontre. Busquets positif au Covid en Espagne. Polémique énorme autour de la sélection. Fred Hermel viendra nous raconter tout ça.
C'est le seul ?
Écoute, pour l'instant, oui.
Okay.
On en parlera avec Fred tout à l'heure. Ils ont rappelé 4 joueurs au cas où, les Espagnols. Et puis l'Angleterre également, on va en dire un mot parce que ça fait partie de tes petits chouchous, coach. Julien Laurence sera avec nous tout à l'heure. Et puis la Belgique s'est imposée face à la Croatie hier 1-0. On sera avec Marc Wilmots, l'ancien sélectionneur de la Belgique. Mais on commence donc par les Bleus. On rappelle les infos puisque demain c'est France-Bulgarie, deuxième match de préparation. On a eu des infos sur la compo d'équipe avec Loïc Tanzi. Loïc, rebonsoir.
À tous, oui, cette composition d'équipe en 4-4-2 losange. Alors, on sait qu'il n'aime pas trop ça, coach, mais on va l'appeler comme ça, si tu veux bien. Coach, avec Loris dans les buts, Pavard, Varane, Kimpembe et Hernandez en défense, Kanté en pointe basse, Pogba, Tolisso juste devant lui, Griezmann en position numéro 10 et Mbappé, Benzema devant. À noter que Rabiot touché à la cheville et Coman qui a une petite alerte musculaire cette semaine à l'entraînement. On fait toute la séance aujourd'hui à part, donc les deux joueurs devraient commencer sur le banc et ne pas avoir beaucoup de temps de jeu demain. Aucun risque ne sera pris avec ces deux joueurs, a dit Deschamps tout à l'heure en conférence de presse, et il devrait aussi un petit peu ménager N'Golo Kanté qui a beaucoup joué et qui a eu quelques soucis durant toute la saison avec Chelsea, et donc il devrait sortir en cours de jeu également demain.
Très bien, merci Loïc. Coach, tu trouves ça normal qu'on continue le même schéma que face au Pays de Galles?
Ben on verra dans le match entier, c'est-à-dire qu'on verra
du moins au coup d'envoi
comment on démarre, et après on verra les changements et on verra s'il y a uniquement des changements de joueurs pour faire une revue d'effectifs ou en même temps un changement d'organisation pour faire les 30 dernières minutes dans une autre organisation. Après, si pour 7 euros, eh bien, Didier pense que la meilleure solution pour l'effectif, les points forts de l'équipe de France, c'est cette organisation qui date depuis je sais pas combien. Donc pourquoi pas?
Oui, toi, voilà. T'es pas convaincu.
C'est-à-dire,
le schéma de base ne te plaît pas trop.
J'ai pas le pourquoi de cette idée. Comme Didier.
Tu veux dire quoi,
comme Didier a pour habitude d'être inspiré, faisons-lui confiance dans son inspiration. Donc, et quand, je sais pas, on est tous passionnés, quand on n'arrive pas à comprendre les choses.
Mais qu'est-ce que tu comprends pas, Roland?
Eh bien, de quel chapeau c'est sorti ce 4-3-1-2 là?
Bah, l'idée, c'est de mettre les joueurs dans les meilleures conditions, en tout cas à leur poste qu'ils ont en club, pour Didier Deschamps.
Ah bon?
Bah, tu vois, Griezmann, il joue plutôt comme ça au Barça. Benzema, il joue comme ça au Real Madrid. Pogba, un petit peu moins ces derniers temps, parce qu'à Manchester, il joue milieu offensif gauche ou milieu axe gauche depuis quelques semaines. Tolisso, il joue à ce...
Griezmann, non, quand même. Il joue pas derrière deux attaquants au Barça.
Ce genre, c'est
un côté.
Oui, mais c'est là où
en tout cas, il veut mettre ses joueurs offensifs dans les meilleures conditions.
C'est là où on a vu Griezmann pendant des années, notamment à l'Atlético de Madrid, dans les meilleures conditions.
Mais
c'est un attaquant.
Il est derrière deux attaquants.
Mais ce que je veux dire, c'est que... qu'il soit derrière Mbappé et Benzema, c'est juste l'idée d'avoir un Griezmann qui peut les mettre sur orbite et qui peut les mettre dans les meilleures conditions et qui peut avoir des joueurs qui tournent autour de lui.
Oui, mais ces joueurs-là, je vais te dire un truc, ils sont tellement bons que tu peux les mettre dans n'importe quelle organisation. Mais si par exemple on réfléchit un petit peu tous ensemble et on se dit tiens, l'utilisation d'Mbappé, l'utilisation de Griezmann, l'utilisation de Benzema, si par exemple on met tout ça dans un 4-2-3-1 ou dans un 4-4-2, mais avec deux lignes de 4 et après deux attaquants qui se replacent l'un derrière l'autre. Ok, mais à ce moment-là, on a la largeur, on a les couloirs qui sont doublés. Là,
Alors, comme a répondu à ça tout à l'heure, coach, et peut-être que c'est ça la bonne théorie, c'est de dire que ce système-là, c'est celui de l'Euro, c'est celui qu'on utilise tout le temps, donc en gros, il est acquis. Et on se sert de ces matchs de préparation pour tenter autre chose, et si ça ne fonctionne pas, le 4-3-1-2, on pourra revenir au système un peu plus classique qu'on maîtrise.
C'est-à-dire que, là, on n'a pas un nouveau sélectionneur. On a Didier Deschamps qui a déjà fait des tas de changements pour essayer de trouver les bonnes solutions. Il y a personne comme entraîneur qui connaît ses joueurs mieux que Didier. Donc nous avons connu aussi un 4-3-3. Un 4-3-3 qui ne marchait pas et qui a été changé
au début de l'Euro,
dans une mi-temps il y a quelques années, avec notamment Griezmann qui est devenu un 9,5, et ça a bien marché. Nous avons eu quand même une originalité en début de notre Coupe du Monde que nous avons d'ailleurs gagné. C'est contre l'Australie avec trois attaquants qui ont battu un record de peu de passes entre eux. Quand on cherchait, si tu veux, la non-complémentarité, là on a battu un record. Je crois qu'ils se sont fait deux passes tous les trois.
Et à l'époque, on les laisse très libres sur le terrain, oui, chacun peut permettre les mêmes choses qu'on entend là.
Les mêmes choses qu'on entend, d'ailleurs, pour qui c'est qui doit tirer un peu la dit, ça y voit. Bon,
oui, il l'a redit, ça, effectivement. Des choses.
Qu'est-ce que vous me posez la question? Moi, je suis que le sélectionneur. Donc, donc si tu veux, ce sont des choses surprenantes, mais après, ce qui est intéressant, c'est les résultats. Nous, on va regarder les résultats et la façon de les obtenir, ces résultats. Je peux quand même être surpris qu'on sorte, si tu veux. Alors, évidemment, on se chambre, mais Didier aussi, c'est un chambreur, il sait très bien que des fois on taquine. Pourquoi pas le WM? Donc, c'est encore juste il y a un petit peu avant le 4-3-1-2, là, ou le 4-Losange 2, je sais pas comment on l'appelle. Ça, c'est une organisation. Plaisanterie mise à part, là, je chambre plus. C'est une organisation et j'ai quand même la prétention de les avoir tout étudiés, de savoir le pour, le contre, ce qui est intéressant, pas intéressant, moins intéressant. Ça, c'est l'organisation, si tu veux, que j'appellerais l'organisation traître, parce qu'elle te donne l'impression d'être très simple pour tes joueurs. J'ai jamais vu une organisation aussi compliquée.
Non, moi, ouais. Ce qui m'inquiète, Roland, je te rejoins un petit peu. Ce qui m'inquiète dans cette organisation et dans ce système, c'est que j'ai l'impression que notre jeu est stéréotypé. C'est-à-dire qu'on peut attaquer que par un endroit, au milieu de terrain ou, si tu veux, vers l'axe. Et j'ai l'impression que cette équipe de France, en 2018 notamment, par la relation technique entre Pavard et Mbappé, même si elle n'était pas exceptionnelle, par la relation technique entre Lucas Hernandez et Mbappé, et encore une fois, elle n'était pas exceptionnelle là aussi, mais qu'on arrivait à aussi jouer sur les côtés. Lucas Hernandez qui centre, le but exceptionnel de Pavard, ben, ça vient de Lucas Hernandez qui centre. Et on avait l'impression que ça pouvait attaquer un petit peu de partout. Là, sans aucun joueur sur le côté, et notamment parce que t'as Tolisso qui est assez bas, et t'as Pogba qui est assez bas, et t'as aucun joueur vraiment identifié de côté, je sais pas avec qui Pavard et Hernandez, qui ne sont pas non plus les meilleurs joueurs offensivement, vont pouvoir peut-être dédoubler, peut-être jouer.
Déjà, on va avoir un débat, excuse-moi de te couper, Mohamed, on va avoir un débat, bon, là, il y a okay, la cheville de Rabiot, on va avoir un débat. Qui va jouer dans l'axe, la fameuse pointe basse? Qui va jouer à droite de la fameuse pointe basse? Qui va jouer à gauche?
Tolisso.
J'ai toujours entendu dire, et j'ai toujours compris aussi, et Didier aussi, que le côté de Pogba, le côté préférentiel, c'est côté gauche. On a même fait jouer il y a quelques années Matuidi côté droit pour pouvoir même mettre Pogba côté gauche. Et maintenant, on m'explique que Pogba, sa meilleure zone, c'est du côté droit. Eh bien, je dis à tout ça, je dis pas non, je dis pourquoi pas. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que Didier a trouvé la bonne formule pour tirer 100% de cet effectif qui est un effectif qui fait peur à tout le monde. Eh bien, je le souhaite, je le lui souhaite et je nous le souhaite. Donc, mais j'attends de voir quand même.
Alors, on va donner la parole à Jonathan qui, lui, a une autre compo à proposer. Jonathan fait le 32-16.
Notre compo ou un autre système?
Bonsoir.
Un autre système, oui. Salut, Jonathan.
Salut, Jonathan.
Bonsoir, l'équipe.
Dis-nous tout et on va voir si coach valide ta compo.
Alors, moi, j'aimerais mettre en avant une autre tactique. Donc, déjà, ce serait pour surtout ne pas enlever ce qui est inenlevable. Par exemple, on sait que Griezmann, il sera 10. On sait que devant, ce sera Mbappé, ce sera Benzema. Pour moi, les trois inamovibles, ce sera comme ça. Ce sera Griezmann en 10, Mbappé, Benzema devant. Mais au niveau de la composition, moi, je choisirais un 3-5-2. Je m'explique. Je trouve que Griezmann en 10, c'est très bon. Devant Mbappé, Benzema ensemble, ça peut créer quelque chose. Mais surtout, N'Golo Kanté n'a jamais été aussi fort que dans un milieu à 2. Donc pour moi, il faudrait le mettre dans les mêmes conditions qu'à Chelsea. Aujourd'hui, si on met Benzema dans les meilleures conditions, si on met Mbappé dans les meilleures conditions, parce que c'est soi-disant les meilleurs joueurs du monde, on devrait mettre N'Golo Kanté aussi dans les meilleures conditions. et c'est-à-dire dans un milieu à deux, et non pas en pointe basse, comme Deschamps aime le faire. Mm-hmm. Et là, ça rebasse toutes les cartes.
Et sur les côtés, tu mettrais qui ?
Bah, c'est ça le problème, parce que sur les côtés, connaissant Deschamps, il serait capable de jouer avec 5 défenseurs centraux, avec 3 défenseurs centraux, plus Pavard et Hernandez sur les côtés. Moi, j'oserais mettre sur le côté droit un Moussa Sissoko. C'est risqué, c'est, vous ne voyez pas comme un fou. Mais,
non, là, ce n'est pas risqué du tout. Ce qui serait risqué, c'est si tu m'avais dit Coman. Là, oui, d'accord. Mais
oui, là, c'est clairement prendre une option offensive. Mais connaissant Deschamps, il jouera très rarement avec 4 plutôt réels offensifs dans son 11.
Qu'est-ce que tu en penses, Roland?
Je vais te dire un truc, pourquoi pas. Donc voilà que ça va être ma réponse préférée. À partir du moment où tu as Benzema, Mbappé, Griezmann, ben tu peux les mettre dans beaucoup d'organisations. Mais moi, ce que je regarde aussi, et ce que recherche Didier, et souvent, et il a raison, l'équilibre de notre équipe de France, mais il y a l'équilibre de notre équipe de France, c'est pas non plus interdit, et on sera peut-être obligé à 30 minutes de la fin, quand tu perdras 1-0 contre telle ou telle équipe, ben, il faudra quand même non pas seulement changer les joueurs, il faudra changer d'organisation, et tu termineras certains matchs avec Dembélé ou Coman, avec Benzema, Mbappé et Griezmann. Et il y a aussi un duo qui est interdit par aucun règlement et qui marchait aussi à une certaine époque, qui marchait tellement bien qu'une fois qu'on l'a utilisé, c'était contre la Suisse et qu'on a marqué 5 buts. Le match d'après, on ne l'a plus revu. C'était tout simplement Giroud et Benzema, qui pour moi sont deux attaquants très, très complémentaires.
Il y a un système qui nous a fait gagner en 2018 et que j'aimerais bien revoir. Même si ça ne met pas forcément Kylian Mbappé dans les meilleures conditions, je lui dis que pour l'équipe de France, c'est important. Pour les Bleus, c'est au-dessus de tout, c'est de revoir l'équipe de France en 4-2-3-1 avec Pogba, Kanté à deux ensemble au milieu de terrain, à droite Mbappé, même s'il ne joue pas au PSG à droite, avoir en 10 Griezmann, avoir en pointe Benzema.
Mais Matuidi remplacé par Rabiot.
Oui, et je mets Rabiot à la place de Matuidi.
Ou Portolisso.
Plutôt Rabiot, parce que moi j'aime bien sa patte et j'aime bien le côté un peu créateur de Rabiot, pour moi, qui est supérieur à celui de Corentin Tolisso. Et je mets Rabiot. Et à la 65e minute, je fais rentrer Ousmane Dembélé, qui sait quand même sur les côtés.
Je vais répondre ce qui va être ma réponse favorite. Pourquoi pas?
Moi, je vois plein de pas dans le pourquoi pas là. Parce que Mbappé joue plus là.
Oui, bah pourquoi pas.
Rabiot, c'est quand même pas extraordinaire dans cette position-là. Autant Matuidi, t'as apporté beaucoup. Autant Rabiot, on peut pas dire qu'il a été transcendant non plus.
Il a pas été transcendant, mais il a quand même fait de bons matchs. Je trouve que Rabiot, il a quelque chose. Il a quelque chose en lui. Il provoque quelque chose. Il a une qualité technique qui est supérieure aux autres. Rabiot.
Ouais. Mais, on le voit quand, en fait.
Moi, je trouve que techniquement, c'est un super joueur. Voilà. Après, dans cette équipe-là, avec un Pogba Kanté qui sont derrière, et avec un joueur qui t'offre quand même beaucoup plus de sécurité que les autres joueurs offensifs, à moins que tu ailles vraiment à l'attaque et tu joues avec 4 joueurs offensifs vraiment, et là tu prends un risque important, mais c'est beau, c'est créatif. Je trouve que ce joueur-là t'apporte beaucoup plus de sécurité que les autres.
Jonathan, merci d'être venu au 32-16. Salut, à bientôt. Jonathan.
Merci l'équipe.
Dans une seconde, on continue les infos de veille de match de France-Bulgarie. Deschamps a parlé de Giroud. Je voulais vous relayer en longueur ce qu'il a dit. Et puis on sera tout à l'heure avec Marc Villemotte, ancien sélectionneur de la Belgique, pour parler de la sélection. Peut-être l'autre favori avec la France. Juste derrière, c'est les premiers qu'on cite, coach.
Il y en a un paquet. Toute sa idée de favori.
La Belgique dans un instant. L'Allemagne également qui joue ce soir face à la Lettonie. À tout de suite, c'est Top of the Foot spécial Euro.
Top of the Foot.
Spécial UEFA Euro 2020. Mohamed Bouafsi, Jean-Louis Tour.
20h16, édition spéciale Euro dans Top of the Foot. Ce sera le 4 tour de la semaine. On est sur l'équipe de France, bien sûr. Et après, on élargira aux autres sélections. On sera avec Marc Villemotte, ancien sélectionneur des Belges, dans un instant. Et puis, il y a aussi la polémique en Espagne après le cas positif pour Sergio Busquets. Fred Hermel viendra nous raconter tout ça. On est à la veille de France-Bulgarie, donc. On vous a mis des infos compos depuis 19h sur rmcsport.fr. Deuxième match de prépa pour les Bleus. Et la situation risque d'être compliquée à un bon moment pour Olivier Giroud. Deschamps en a parlé aujourd'hui. Deschamps dit: j'ai parlé de différentes choses avec lui. Il est dans un groupe de 26. Il a envie d'être important, comme tous. Je sais très bien ce qu'il est capable de faire. Après, on ne va pas revenir sur sa situation difficile qu'il a connue en club depuis fin février, où son temps de jeu a été extrêmement réduit. Il est arrivé plus tard, donc on a en plus eu moins le temps d'effectuer un certain travail. Même si, comme avec son club, il donne toujours le maximum, rien ne remplace les matchs en termes de temps de jeu. il en a eu très peu. Forcément, c'est problématique, même s'il est en top forme et qu'il est habitué à ça. Ça sonne quand
c'est
même.
C'est un peu inquiétant pour lui.
Il n'y aura pas beaucoup de temps de jeu pour Giroud, quoi. Il n'y aura pas beaucoup de minutes.
Disons que bon, c'est pas non plus une surprise.
Non.
C'est tout simplement des précisions. Maintenant, qu'il puisse filer un coup de main en rentrant en cours de match, même s'il n'a pas le gabarit pour être le joker idéal. Donc, on peut rentrer un petit vif ou quoi. Mais ça ne fait rien. Il peut apporter son jeu de tête, il peut apporter sa présence. Et quand je dis son jeu de tête, c'est autant pour un dernier quart d'heure de match où tu mènes 1-0, il peut t'apporter aussi son jeu de tête sur le plan défensif, il peut t'apporter sa présence, il peut garder le ballon, il peut tirer les pénaltys et les marquer, lui. Donc, si tu veux, c'est quand même un joueur qui peut être intéressant. C'est pas le joueur avec les précisions que nous donne Didier qui va se transformer en supporter.
Non, mais le seul truc qui est un peu inquiétant pour Olivier Giroud, c'est qu'il a un profil dans un match. Tu l'as dit, Roland, c'est pas un joker. Et donc, dans un match, Didier Deschamps, à la 65e, s'il y a besoin de rattraper un score ou s'il y a besoin de maintenir un score, eh bien, il fera rentrer un milieu de terrain ou un joueur un peu plus défensif. Et s'il y a besoin de rattraper un score, ouais, de réduire l'écart au score avec une autre équipe, il faudra faire rentrer un joueur comme Dembélé, comme Coman. C'est ça qui est un peu inquiétant pour lui.
Je comprends ce que tu veux dire, mais il faut quand même remonter à 3-4 mois. Si aujourd'hui tu as eu le retour de Benzema, c'est parce que Giroud était devenu de plus en plus inquiétant avec Martial, son remplaçant, qui était lui aussi
pas inquiétant en équipe de France.
Eh oui, mais
toutes ses stats le montrent. Il est le meilleur buteur d'équipe de France avec un temps de jeu qui est moins important que les autres.
Tu peux réfléchir et anticiper qu'avec ce que fait Giroud depuis trois quatre mois, il va y avoir des difficultés au mois de juin pour jouer l'Euro. Ensuite, tu sais très bien que Mbappé utilisé au poste de numéro 9, et évidemment que tu peux l'utiliser comme dépannage, mais c'est un peu dommage, tu ne tires pas 100% de ses qualités. Donc il est retourné Benzema. Avec le retour de Benzema, c'est sûr que ça pose un problème pour Giroud en premier.
Ouais.
C'est une évidence pour moi.
Non mais Roland, on est tous d'accord sur ce point-là. Le seul truc, c'est que Olivier Giroud aujourd'hui, je ne sais pas dans le style de Didier Deschamps, dans l'animation de Didier Deschamps, comment il peut s'intégrer dans un rôle différent que celui titulaire.
Tu sais que je suis superstitieux, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais toujours est-il, je touche du bois en même temps que je te le dis. Si, dans les matchs de préparation, et surtout que ce ne soit pas grave, Benzema avait un petit problème d'une blessure, c'est qui le remplacerait en poste de numéro 9?
Pour moi, Giroud.
Eh bien, voilà, donc il n'est pas si loin que ça, mais il a été repoussé compte tenu de son peu de temps de jeu sur les 3-4 derniers mois.
Tu penses que Didier Deschamps peut le faire rentrer à la 65e minute d'un match et Giroud peut remplacer Benzema?
Je dirais pas sûr, mais pourquoi pas, c'est pas non plus impossible.
On accueille
Rémi. Parce que je te dis, tu as quand même un jeu de tête que beaucoup dans cet effectif n'ont pas.
Rémi est avec nous au 32-16. Salut Rémi.
Salut Rémi.
Bonsoir messieurs.
Salut Rémi. T'attends quoi du match de préparation demain? Et autre question, quand t'entends qu'on se dirige vers le même 11 ou du moins la même tactique que lors du match face au Pays de Galles, t'en penses quoi?
Moi la même composition pour le match de demain, ça m'embête un peu parce que les automatismes, je suis d'accord, mais j'aimerais bien qu'on apporte un peu plus de fraîcheur niveau style de jeu en fait. Moi, Dembélé et Coman sur les côtés, ça me plaît grave. Quand je vois le match que Karim a fait et que j'essaie de le comparer à ce que fait Giroud en temps normal en équipe de France, oui, il y a plus de technique. J'ai pas trouvé plus de déplacements que Giroud fait. Olivier Giroud fait plus de face défensive en fait. Il défend plus. C'est plus utile aussi sur corner. Enfin voilà, c'est surtout un peu tout ça qui, au niveau de la fraîcheur du jeu en fait.
Ouais. Et qui t'aurais envie de voir en particulier demain? Il y a des joueurs peut-être?
Malheureusement, enfin moi je pars du principe qu'il a eu encore sa chance, Karim. Il a eu des occasions, malheureusement pour lui, il les a pas mis.
Donc, par exemple, allez, on va s'amuser à une petite idée. Les trois du milieu, on les a. Attends, c'est pas ça la question. Oui, oui. Les trois du milieu, s'il n'y a pas Rabiot, on sait très bien que tu vas les deviner. Donc, par contre, on complique un peu. Tu mets qui dans l'axe, qui à droite, qui à gauche?
Dans l'axe, bah, je donnerai la chance à Olivier Giroud. Je mettrai à gauche.
Non, les trois milieux, ah, les trois milieux du terrain.
Ok, milieu terrain.
Donc, il n'y a pas Rabiot. Tu as Tolisso, Kanté et Pogba. Ils jouent comment pour toi?
Moi, je mets que Pogba et Kanté.
Oui, mais il n'en met pas trois. Et moi, toi, Roland, t'aurais mis Tolisso, je suis sûr, devant la défense.
Bah,
Pogba à gauche et Kanté à droite.
Mais c'est une évidence.
A priori, ce sera Kanté, ouais, ce que nous disait Loïc
Tanzan. C'est même pas. Après,
je te rejoins parce que j'ai l'impression qu'on bride N'Golo Kanté sur sa façon de se projeter vers l'avant aussi.
Voilà,
et même que Kanté récupère certes mieux, plus de ballons, mais il a cette façon de se projeter qui est beaucoup plus dangereuse dans sa. Même avec le ballon, techniquement, c'est très fort, ce que ne peut pas faire Tolisso.
Pour que lui, adorable comme il est, timide comme il est, même si je le trouve un petit peu en progrès là, sur sa timidité.
Il ne veut plus qu'on dise qu'il est gentil.
Il arrive à te dire que bon, j'aime bien, disons. En gros, j'aime bien être 8 aussi. Il ne dit pas j'aime être plutôt 8 que 6. Ouais. Ça, il sait très bien que ça, c'est difficile à dire. Mais quand il nous fait passer comme message qu'il est très bien au poste de numéro 8, eh ben, ça peut nous filer des idées. Quand même.
Et dis-moi, Rémi, j'ai rêvé où tu mets Benzema sur le banc et tu remets Giroud?
Ah ouais, mais juste pas. Mais après, c'est pareil, c'est la loi de la concurrence. Si Giroud marque ou fait plus de choses mieux que Karim a fait contre le Pays de Galles.
T'as pas aimé son match contre le Pays de Galles?
On a 6 flèches devant.
T'as pas aimé son match contre le Pays de Galles?
Comment?
T'as pas aimé son match contre le Pays de Galles?
Ah si, j'ai aimé.
Il y avait ni de Galles.
Qu'est-ce que le Pays de Galles, en fonction de mes souvenirs de ce que fait Giroud par rapport à Benzema. Mais après, le match est biaisé à partir de la 30e minute. Et ça, c'est vraiment, vraiment embêtant. Et après, moi, franchement, au niveau des contre-attaques qu'on a subies, j'ai trouvé l'équipe de France un peu sec au niveau sur les côtés, côté droit, le pauvre Pavard, il était déjà en train de bûcher, ouais. Parce qu'il n'y avait pas énormément d'attaquants qui venaient l'aider à couvrir le côté droit. Mais gauche, Hernandez est beaucoup plus à son poste, donc.
Là où on peut rejoindre Rémi, c'est que on peut se dire que quand on a sur le banc Dembélé et Coman et qu'on ne joue pas avec des joueurs de côté, c'est un peu triste. Je le répète, je ne l'espère pas. Je prie pour que l'équipe de France gagne cette compétition et j'espère que ça va bien se passer. Mais j'ai peur que notre jeu soit un peu stéréotypé.
Merci Rémi, à bientôt.
Merci Rémi.
Bonne soirée.
Salut, dans Rémi. Une seconde, que valent les adversaires des Bleus à 7 euros? La Belgique, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne. On vous dit tout dans une seconde. Restez avec nous, à tout de suite.
20h21h, Top of the Foot.
Spécial UEFA Euro 2020, Mohamed
Bouafsi,
Jean Wittour.
20h29, on lance l'Euro sur RMC à 4 jours du début de la compétition vendredi. On va évoquer l'Angleterre dans un instant, l'Espagne avec le cas positif au Covid pour Sergio Busquets. Quelles conséquences, Fred Hermel viendra nous le dire. Et puis avant d'accueillir notre invité Marc Wilmots, l'ancien sélectionneur de la Belgique, on va tout vous dire sur l'Allemagne qui joue ce soir face à la Lettonie. Polo Breitner est avec nous. Salut Polo.
Bonsoir Jean-Louis, bonsoir tout le monde.
Salut Polo.
Premier adversaire des Bleus. Salut à l'Euro, cette Allemagne. Quel compo pour ce soir?
Écoute, une compo qu'on pourrait revoir dans une semaine, je pense.
Alors, vas-y.
Avec un 3-4-3 qui semble s'imposer de plus en plus.
3-4-3.
N'oublions pas que Goretzka ne sera pas là, a toujours ses problèmes musculaires, il sera absent contre la France. Donc évidemment, ce qu'on appelle en Allemagne le bloc Bayern, il en prend un coup. Donc évidemment, Neuer dans les buts qui fête sa 100e sélection ce soir. Ginter, Hummels, Rüdiger pour les trois défenseurs centraux. Sur les côtés, Kimmich serait décalé sur le côté droit, côté gauche, évidemment, Gosens, le joueur de l'Atalanta qui a l'habitude de cette position. Un milieu de terrain, donc, Kroos, Gundogan. Et puis, il y a trois joueurs qui sont libres devant, Thomas Müller, Gnabry et Kai Havertz, le joueur de Chelsea. Important, Sané n'est pas titulaire ce soir et ça me semble important de le signaler parce que Yogi Löw a fait une conférence de presse où il a fait comprendre que ceux qui ne feraient pas le travail défensif ou qui ne feront pas le travail défensif seront systématiquement éliminés. Et en fait, c'était un peu une nouvelle façon de communiquer en ce moment où il va faire moins de cadeaux. Pardon ?
S'il y en a 7 ou 8, ils vont finir en forfait.
Peut-être. Il y a peut-être le Covid qui va venir aussi. Mais au niveau de la communication, ça me semble important parce qu'on n'est pas du tout dans la logique de 2018. C'est-à-dire qu'on sent que Yogi Löw, là, pour sa dernière, il n'a pas envie de se rater forcément. Et il n'a pas envie de faire de cadeaux non plus à ses joueurs. Donc peut-être que certains l'ont trahi, entre guillemets, notamment à la Coupe du Monde 2018. Et donc, on sent une équipe d'Allemagne ambitieuse, même si, évidemment, il y a des doutes résiduels.
Et donc, pour toi, ça peut être ce 11-là qui commence l'Euro?
Alors ça, c'est possible. Alors Klostermann
est absent. Le changement, ouais.
Bah, ce qui, le problème, c'est alors la question, en fait, la véritable, c'est le positionnement de Kimmich. Kimmich positionné en piston droit, il l'a déjà fait plusieurs fois, hein, aussi bien avec le Bayern qu'en équipe d'Allemagne. Mais c'est pas aujourd'hui son poste préférentiel. C'est évidemment au milieu de terrain. Donc on pourrait toujours. Normalement, c'est Klostermann. Klostermann a des problèmes au genou, donc il n'est pas là ce soir. Mais quand même, quand tu vois cette équipe-là, quand tu vois qu'Havertz a été utilisé pendant les qualifs pour la Coupe du Monde 2022 et que pour moi, il faisait partie du 11 de départ parce qu'il est très polyvalent, parce qu'il revient bien sur la fin de saison et encore une fois, il y a le cas Leroy Sané, cette équipe pourrait très très bien ressembler. N'oublions pas, c'est dans 8 jours. Hein. Donc les joueurs ont le temps aussi de récupérer. Mais on est aussi dans l'urgence en Allemagne. Hein. On est un petit peu, on part un petit peu la fleur au fusil et peut-être qu'on va trouver ce 11 titulaire. Bon, en tout cas, ce 11 titulaire, lorsque je l'ai vu, je me suis dit, tiens, ça pourrait faire quelque chose contre la France.
Et humainement, comment ça se passe avec le retour des anciens et les plus jeunes?
Alors, très clairement, Hummels et Thomas Müller sont arrivés et en gros ont pris le pouvoir tout de suite, notamment en conférence de presse. Même les deux ensemble ont blagué. Alors, Thomas Müller a fait des déclarations assez intéressantes parce qu'il est là pour engueuler en gros un peu tout le monde et notamment les jeunes. Mais il attend aussi que les autres l'engueulent. Et ce qui est, me semble important, c'est qu'il faut voir la dépense d'énergie de Thomas Müller lors du match contre le Danemark où il a couru comme un dératé pendant les 90 minutes. Et en fait, avec les joueurs, il y a quand même des joueurs qui sont combien? Il y a quand même 12 joueurs qui étaient déjà là en 2018. Il y a quand même certains joueurs du Bayern qui sont là, donc si tu veux, au niveau de l'intégration, c'est pas problématique. Et puis, on fait un petit peu plaisir à tout le monde quand même, parce que le grand perdant possible, c'était Ginter. Le fait qu'on reste en défense à 3 pour le moment fait qu'il est toujours titulaire. Et puis, à Mönchengladbach, il pouvait jouer comme ça aussi. Là, on règle aussi le petit problème du milieu de terrain, parce que c'est ce qu'on parle beaucoup de ça en Allemagne. Hein. C'est la surabondance des milieux de terrain entre Goretzka, Gundogan, Kroos et Kimmich. Le fait de décaler Kimmich, que Goretzka soit blessé, on permet de mettre Kroos et Gundogan au milieu de terrain. Ça règle un petit peu tous ces soucis. Donc c'est plus des questions de performance, mais ce qui est très sûr, c'est que les médias ne sont intéressés que par le retour, notamment de Thomas Müller. Mats Hummels, c'était assez facile pour la défense centrale. Oui. Et vous avez évidemment des déclarations très optimistes sur le fait qu'ils veulent gagner chaque match. Mais je précise encore une fois, pour moi c'est nouveau dans la stratégie au minimum de communication du sélectionneur, c'est qu'ils ne veulent pas prendre de but, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir une équipe d'Allemagne beaucoup plus pragmatique que celle qui utilise la possession du ballon en France.
Il y a un objectif qui a été fixé ?
Non. Mais si tu veux, l'Allemagne peut pas ne pas sortir, en fait.
Ouais.
C'est un truc...
Bien sûr.
Fou, quoi.
Oui.
C'est quelque chose. Si tu veux, alors depuis qu'on a annoncé le retour des anciens, notamment de Müller et Hummels, tu as une vague d'euphorie en Allemagne assez impressionnante. Mais ils se posent même pas la question parce que Thomas Müller, encore une fois, on en a parlé déjà avec toi, Jean-Louis, et oui, avec Roland. Le retour de Thomas Müller fait que tout ce qu'on a fait depuis, on va dire, la fin 2018 et son départ de forcé de l'équipe, tu peux mettre tout ça à la poubelle. Bah, c'est-à-dire les contres, c'est complètement différent.
Comme nous, de ce en France, qui se passe. On a tout changé pour Benzema aussi. Hein.
Pas tant que ça, c'est pas le même profil, mais
pas le même profil, mais on a une tactique qu'on n'a jamais utilisée depuis 4 ans. Donc bon, merci Polo.
Merci à vous.
Bonne soirée. La Belgique tout de suite qui s'est imposée hier face à la Croatie 1-0, et on va parler de la sélection avec notre invité Marc Villemot, qui était sélectionneur de la Belgique de 2012 à 2016. Bonsoir Marc.
Bonsoir Marc.
Bonsoir à tous. Bonsoir.
Bonsoir Marc, c'est toujours un plaisir de t'entendre.
Tu vas bien?
Ça va, ouais. Et toi, le Bordelais?
Très, très bien. Très bonne analyse de notre ami allemand, parce que c'est une équipe que je suis aussi.
Ah oui? Vous partagez tout?
Je partage surtout qu'il y a le milieu de terrain, Goretzka, Kimmich, Müller, c'est quand même la base du Bayern,
ouais,
qui ont les automatismes, mais c'est le cœur de l'équipe. Plus Sané et Gnabry sont habitués à jouer ensemble, à part Werner qui va remplacer Lewandowski, tu as quand même une base très, très, très solide, qui a gagné la Champions League, qui va en demi-finale, donc... Voilà, ça va être intéressant à voir.
Et ça, c'est très important de le mettre en avant dans le foot de sélection où il y a peu le temps de travailler ensemble. D'avoir une ossature d'un club, c'est important.
Exactement, c'est ne pas changer les joueurs quand ils sont habitués de jouer dans un certain rôle dans une équipe. On n'a pas le temps de changer. Si tu joues du dos au but ou face au but, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes automatismes. Il y a des réflexes qui doivent revenir. Et voilà, est-ce qu'il va s'appuyer sur le Bayern ou pas?
Parce qu'eux,
ils ont l'habitude de jouer ensemble, mais c'est une machine de guerre, quoi. Donc voilà, ce sera à voir. C'est intéressant.
Depuis l'arrêt Bosman, il n'y a pas aussi beaucoup de grosses équipes, des grandes équipes de clubs qui ont autant de joueurs internationaux dans leur équipe.
Exactement, mais il y a aussi un cas qui est Jérôme Boateng qui aurait pu encore jouer avec elle.
Oui, en plus.
Alors on va parler de la Belgique quand même, Marc, avec toi. Hein.
Pardon ?
On va parler de la Belgique quand même.
Ah, je t'en prie, vas-y.
Marc, pour revenir sur la Belgique, alors depuis quelques mois, c'est devenu notre plus grand concurrent, la Belgique. On aime bien battre la Belgique, nous en France, mais en revanche, cette équipe, elle a vraiment progressé depuis quelques mois. Comment vous expliquez cette progression nette et qu'on peut tous constater ?
Bah écoute, je ne sais pas si c'est une progression nette. Regarde, on était en 2012, on était 58e mondial. En 2015, on est venu premier à la première place mondiale. Donc il y a un groupe qui a été très jeune, qui est parti en 2014, qui n'avait plus fait de tournoi depuis 12 ans. Il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup d'affinités maintenant et qui arrivent à un potentiel maximum. Ça veut dire que ce soit Romelu Lukaku, qui a 28 ans, que ce soit De Bruyne, qui est au sommet de son art, que ce soit normalement Eden Hazard, qui devrait être, mais qui a des problèmes de blessures, Thibaut Courtois, qui a 28 ans. Donc ce sont des joueurs qui ont maintenant un vécu, c'est important, qui savent gérer ces moments, qui ont grandi dans les clubs aussi, et qui arrivent vraiment, ben, comme le bon vin de Bordeaux, aux meilleures années maintenant pour récolter des fruits.
Oui, et Marc sait de quoi il parle, puisque en plus d'avoir joué un an à Bordeaux, et il vit à Bordeaux désormais. Hein.
Complètement, voilà. Mais bon, dans cette équipe-là, il y a quand même deux joueurs, il y en a beaucoup de bons joueurs, mais De Bruyne en forme, Hazard en forme, rajouté à l'équipe que j'ai vue là dernièrement en match amical.
Hier contre la Croatie.
Là, ça serait quand même une équipe monstrueuse.
Lukaku est monstrueux pour l'instant.
Oui.
Donc il a fait à l'Inter de Milan. À lui tout seul, il peut gagner le match.
Alors De Bruyne qui a rejoint d'ailleurs la sélection aujourd'hui, hein, lui qui était touché après la finale de Ligue des Champions. Ouais. Donc il va retrouver l'entraînement progressivement. Il devrait être ménagé pour le premier match de l'Euro pour la Belgique. Voilà, c'est Russie, Danemark, Finlande, hein, le groupe des Belges. Par rapport à l'équipe d'hier, donc comment on rajoute De Bruyne et Hazard ? Bon, De Bruyne c'est pas compliqué, je pense qu'il joue à côté de Tielemans. Et Hazard, il prendrait la place de qui ?
Ben on joue maintenant avec deux joueurs, genre Mertens ou Carrasco, qui sont assez libres, qui vont perdre de balles, vont sur les côtés aussi, mais qui servent bien l'axe. C'est ce qui s'est passé hier avec les Croates, qui avaient un bon entrejeu et qui ont pris la première demi-heure à leur compte, et puis ils ont réajusté. Mais on a beaucoup, beaucoup de joueurs offensifs, donc ça, je pense que c'est pas là qu'est le problème de la Belgique. Quand vous avez des Doku, des Trossard, des Torganaza, des Benteke, nous avons assez offensivement. S'il y a un, deux, trois blessés, je vais dire que c'est pas encore trop grave.
Et Marc, le problème, il est défensif plutôt avec cette équipe.
C'est pas un problème défensif, c'est déjà, je vais dire, de mon temps en 2016. Nous avons une défense type avec Vertonghen latéral gauche, Vermaal, Compagnie et Toby Alderweireld. Cette défense a été pendant 4 ans la meilleure défense d'Europe à 4 derrière. Oui. Maintenant, on est passé à 3, mais on a perdu Vincent Compagnie, qui était le leader de cette équipe. Et qui avait surtout, dans les 1 contre 1, une vitesse pour pouvoir revenir, de gagner des duels et une personnalité. Le deuxième profil était Thomas Vermaal, mais qui a maintenant 35 ans. Donc c'est un peu dans l'âge et dans la vitesse qu'on va voir si on joue contre des équipes qui vont nous laisser attaquer. Et s'il y a de l'espace dans le dos, là on va voir la vitesse et peut-être les problèmes vont venir à ce moment-là. On a une défense vieillissante, si je vais dire.
Je reviens à Eden Hazard. On peut l'imaginer s'asseoir sur le banc s'il est apte, vu la concurrence qu'il y a devant.
Bon, un Eden en pleine possession de ses moyens est toujours titulaire. Maintenant, le problème, c'est que bon, moi, je l'ai suivi un peu les derniers mois ici et j'espérais que contre Villarreal, il joue 90 minutes. Parce qu'Eden a besoin de rythme, a besoin de match.
Eh oui,
c'est comme ça qu'il monte en puissance.
Et ouais, mais c'est on tourne en rond, Marc.
Voilà,
c'est-à-dire
contre Villarreal, j'espérais que les deux matchs, il joue. Donc j'étais étonné de voir rentrer seulement 10 minutes hier. Donc ça veut dire que peut-être tous les problèmes ne sont pas résolus.
Eh oui, mais si tu le fais démarrer, là je me mets à la place des entraîneurs, tu le fais démarrer 9 fois sur 10, il se refait mal à partir de la 60e. Donc c'est compliqué ce joueur pour le gérer. Ben,
c'est très compliqué quand tu as des blessures à répétition et que tu as raté un morceau de la préparation. Je veux dire que tu cours derrière le train pendant toute l'année. Mais on est en train d'enchaîner les matchs, on est en train d'enchaîner surtout au Real de Madrid, surtout maintenant en équipe nationale. Les joueurs ont eu très très peu de repos. Donc c'est peut-être qu'on le gère bien en attendant le bon moment pour le lancer. Et ne fût-ce qu'une demi-heure, le cas est à peu près le même pour Axel Witsel, par exemple.
Il paraît quand même qu'il a fait des efforts. Marc, en 2 ans, il est revenu à son poids de forme.
Est-ce que, Marc, est-ce que Eden Hazard, il ne paye pas aussi son hygiène de vie ? Le fait que ce ne soit pas toujours un joueur, j'ai pas envie de dire professionnel, parce qu'il est professionnel, mais sérieux, qu'il aime bien la vie.
Ben écoute, pour moi, pour l'avoir vécu pendant quand même 7 ans avec lui, je peux te dire que c'est quelqu'un, et on peut regarder, si on regarde à Lille, qui faisait une préparation doucement et qui montait en puissance.
Voilà, parce que quand il enchaîne les matchs,
Marc, moi j'adore ce joueur, mais à lui, il y avait 18 ans. On sait très bien, et il s'en cache pas, qu'il aime bien profiter de la vie. Il arrive à Madrid avec 8 kilos de trop. C'est un joueur qui parfois ne fait pas attention à certaines choses, et il les paye cash quelques mois après, parce que ses blessures, elles viennent aussi de là.
Mais on est d'accord que c'est il y a 2 ans que c'est qu'il est arrivé trop gros.
Oui,
bon,
c'est ça.
Il s'est laissé aller en vacances il y a 2 ans.
Eh oui, mais il a mis 2 ans pour revenir.
Mais problème, bon, il s'est fait mal à la cheville, puis ça a continué, puis on hésite une opération, pas d'opération. Donc ça a été compliqué pour lui, ces 2 années extrêmement difficiles que dans une carrière. Mais j'ai toujours l'espoir de revoir Eden. Je l'ai vu là, il est affûté, j'ai vu son visage, j'ai vu qu'il a envie, voilà. Mais j'espère que son corps va tenir.
Marc, merci beaucoup d'être venu sur RMC. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous.
Merci beaucoup.
Et avec beaucoup de plaisir.
À très bientôt, j'espère. Salut.
Au revoir.
À bientôt, Marc Wilmots, donc ancien Marc. Sélectionneur de la Belgique. Et puis, on parle d'un Belge également sur le mercato à Lyon. Jean-Michel Aulas vient d'en parler. Là, il a parlé aussi du club. Il va rencontrer Jason Denayer, qui devrait être titulaire en défense centrale avec la Belgique, pour une prolongation de contrat. Aulas dit, on était quasiment proche d'un accord. Bon, le fait de pas être en Ligue des Champions, ça l'a un peu refroidi. Mais bon, voilà. Il fait l'Euro. On le suit. Faut pas s'inquiéter. On le verra à son retour de l'Euro. Voilà. Dans une seconde. L'Angleterre et l'Espagne, une grosse polémique
la
en
crise,
Espagne.
La guerre.
Exactement. Fred Hermel va nous dire pourquoi dans une seconde. À tout de suite.
Top of the Foot.
Spécial UEFA Euro 2020. Mohamed Bouafsi, Jean Wittou.
20h46, on est avec Coach Courbis. Dernière ligne droite de notre Top of the Foot spécial Euro à 4 jours du début de la compétition. On va aller en Angleterre et en Espagne. Fred Hermel et Julien Laurent sont avec nous. Bonsoir à tous les deux.
Hola chicos.
Salut à tous.
Alors,
salut
les amis. Julien va nous dire ce qu'il faut retenir de la victoire 1-0 face à la Roumanie de l'Angleterre, mais d'abord la polémique en Espagne autour de Busquets et de son cas positif. Fred, explique-nous pourquoi l'Espagne est en feu.
Bah, c'est une polémique et une grosse inquiétude quand même, parce que ils sont au centre d'entraînement de la fédération à Las Rosas à côté de Madrid. Busquets a été contrôlé positif hier. Il y a une crainte, bien sûr, bien évidemment, de contamination d'un cluster, comme on dit, généralisé.
Et peut-être de forfait. Comment ça va se passer?
Peut-être de forfait. Bah oui, bien sûr, parce que si jamais on apprend demain que plusieurs joueurs sont positifs, bah il faut. D'ailleurs, Luis Enrique est déjà en train de préparer l'après. Alors il y avait un match contre la Lituanie demain, donc ce sont les espoirs qui vont jouer ce match. Ils vont pas annuler. La Lituanie va venir à Butarque, la Leganés. Demain, donc, ce sont les espoirs avec le sélectionneur des espoirs, etc. Parce que Luis Enrique, il est aussi en quarantaine pour l'instant. Et bien sûr, ça c'est évident. Donc, alors comme Busquets avait fait une photo avec des joueurs portugais pour la promotion de la candidature commune de l'Espagne et du Portugal pour l'organisation du Mondial de 2030, il y a aussi des tests qui ont été faits chez les Portugais. Les 24 a priori, enfin. Pour l'instant, sont négatifs. Donc, ça peut avoir un effet collatéral. Pour l'instant, ils sont négatifs, mais on sait très bien ce qui se passe avec le temps d'incubation du virus de la Covid-19. Sure. Et là, du côté de l'Espagne, pour l'instant, là aussi, il n'y a que des cas négatifs. On va voir demain quand de nouveaux tests vont être faits. Mais en attendant, Luis Enrique a convoqué des joueurs comme Bryce Mendes du Celta, Rodrigo Moreno, Pablo Fornals et Carlos Soler, qui viennent.
Est-ce qu'il a le droit d'ailleurs?
Oui, enfin,
j'ai vu passer quelques tweets qui se posaient la question et en disant qu'en Espagne, certains disaient même qu'ils n'avaient pas forcément le droit.
Alors, ils sont venus pour s'entraîner. Ils ne vont pas jouer demain contre la Lituanie. Ils sont venus pour s'entraîner. En gros, et pour les mettre dans la bulle à part, parce que il faudrait pas non plus que de possibles remplaçants se contaminent dans la société. Donc en fait, ils viennent s'entraîner, ils seront dans une bulle à part au centre d'entraînement. Au cas, et il remplacerait au pied levé de possibles cas positifs.
Et comment il a fait pour l'attraper?
Tout ça étant l'accord avec l'UEFA.
Comment il a fait pour l'attraper, Busquets?
Parce que c'est quand même très étonnant. Ouais,
t'es censé être dans une bulle quand même depuis les buts.
Pour avoir vécu celle de l'équipe de France, c'est incroyable. Hein. C'est test PCR la veille et test antigénique le jour même pour arriver en équipe de France à Clairefontaine.
Et puis alors, il y a une grosse polémique en Espagne qui est montée ces dernières heures, puisque la fédération a accusé le gouvernement, en l'occurrence le ministère de la Santé, de ne pas avoir fait vacciner les 25 joueurs sélectionnés. Je ne suis pas un grand fan du gouvernement actuel en Espagne, mais enfin, il n'y a pas de passe-droit. L'Espagne, ouais. La vaccination n'est pas encore ouverte à tout le monde, donc elle n'est pas ouverte aux mecs de 25 ans. Donc, alors finalement, ils auront demain la Johnson & Johnson, la Janssen. Mm-hmm. A priori, demain, il y aura une exception qui va être faite par le gouvernement.
Et là, je comprends. Spécialisé vaccin.
Fred, il a donné deux vaccins, surtout en plus.
Non, c'est le même. Janssen, c'est le nom. C'est Johnson, ouais. C'est le nom qu'on utilise en Europe pour le Johnson & Johnson. C'est celui avec une dose. Voilà. Et donc, on peut comprendre que le gouvernement espagnol n'ait pas voulu faire avant de passe droit parce que ça aurait pu créer un problème dans la société.
Fred, merci.
Simplement, pour terminer, rappelez-vous ce qui s'est passé en 2018, trois jours avant le début de l'Espagne en Coupe du Monde. T'as le président de la fédération qui a viré l'entraîneur. Et là, on ne sait pas combien de joueurs seront disponibles pour le début de l'Espagne lundi prochain.
Et juste pour faire le parallèle avec l'équipe de France, ça, c'est la plus grande des inquiétudes des sélectionneurs actuellement. Fred a raison d'insister là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y a 26 joueurs. Parce que si un joueur chope la Covid durant la compétition, il quitte le rassemblement. Il n'a plus aucun lien avec les autres joueurs ou avec les membres du staff. Et la panique pour tous les sélectionneurs durant cette compétition, c'est que, allez, 2-3 jours après le début, il y ait un joueur qui puisse l'avoir et qui puisse le donner à 3-4-5 joueurs. Et là, ça serait terrible pour une sélection.
Faut qu'on regarde 2 minutes pour l'Angleterre avec Julien. Merci Fred. Alors, l'Angleterre qui a battu la Roumanie 1-0, qu'est-ce qu'on retient, Julien, qui a un potentiel offensif de dingue?
Effectivement, on le savait. Le problème, c'est que surtout pour Gareth Southgate, et là, même si je le porte pas dans mon cœur, vous le savez, là où faut reconnaître qu'il a pas trop de chance, c'est qu'il a jamais pu aligner son équipe type, son 11 titulaire, son 11 type, à cause des performances des clubs anglais en Ligue des Champions et en Europa League. Donc ça veut dire que pas de joueurs de Chelsea, de Manchester City n'ont pu prendre part aux deux matchs amicaux qu'ils ont joués, donc contre l'Autriche et contre la Roumanie hier soir. Et donc à aucun moment il a pu aligner son équipe type avant le match contre la Croatie le week-end prochain. Donc c'est vrai que c'est pas idéal pour préparer cette Euro qui est quasiment à domicile pour eux, pour les Anglais. C'est vrai qu'il a il a une force offensive assez incroyable. Après à lui de faire les bons choix. Est-ce que ce sera Rashford avec Kane et Sterling? Est-ce que ce sera Foden? Est-ce que ce sera Sancho? Ou est-ce que tu mets Mason Mount par exemple? Est-ce que tu fais jouer Jack Grealish? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Coach, et déjà contre l'Autriche, il avait été plutôt bon, intéressant, avec le ballon notamment, dans ses cours, comment il provoque l'adversaire. Défensivement, c'est moins fort. En tout cas, il y a un déséquilibre assez certain. Mais c'est vrai qu'offensivement, ils ont énormément de potentiel. À lui, après, à Southgate de faire les bons choix. Mais c'est vrai que le fait de pas avoir pu et s'entraîner déjà avec tous les joueurs disponibles et jouer avec son équipe type, c'est vrai que c'est pas idéal avant le début de la compétition.
Ce gardien, il est bon aussi, non?
Alors lequel? Parce que
là, c'était Johnston, mais toi, tu penses à Pickford?
Non, Johnston.
Ah, d'accord.
Johnston, il est très bon. Il a fait une très bonne saison avec West Bromwich. Il est que numéro 3, coach. Mais je suis d'accord avec toi. Sur le match d'hier, il a vraiment été très bon. Il leur sauve la baraque 2 ou 3 fois.
Je lui vois les réflexes qu'il faut à ce poste-là. Ouais. Donc, mais bon, après, j'ai dit, c'est peut-être le match de sa saison, mais pourquoi pas? Peut-être que de 3, lui, il risque de régler les comptes à tout le monde.
Oui, c'est a priori possible. Non, c'est après, Pickford qui commence.
Non, Pickford numéro 1, Dean Henderson numéro 2. Mais c'est vrai que défensivement, est-ce qu'il va jouer avec une défense à 3, une défense à 4? En fait, il y a plein d'incertitudes finalement, comment ils vont jouer, avec qui, notamment offensivement. Et le fait qu'il n'ait pas pu aligner des joueurs ou voir un petit peu ce que ça donnait sur le terrain en faisant des associations.
Et dis-moi, Lingard a fait une belle entrée devant.
Il était pas mal dans les deux matchs, mais il rentre à la maison là.
Avec la valise à la maison.
C'est ça l'histoire dont on parle depuis 4 jours, c'est que Southgate a pris des joueurs pour la prépa qui ne seront pas à l'Euro.
Il va garder le short, le maillot, les bulles, enfin le survêtement, tout ça, il est content.
Julien, merci. Bonne soirée.
Merci, Julien.
On se retrouve dans l'after qui arrive tout de suite avec Gilbert Brivois. Salut Gilbert.
Encore un after d'exception ce soir. Déjà parce que Stéphane Guy est avec nous.
Excellent.
Voilà, excellent. Pendant 3 heures, 3 heures d'opinion, de débat avec Daniel, avec Jérôme Rotten, avec Stéphane Guy ce soir. On va parler de la VAR. Parce que figurez-vous qu'il y a un bouquin qui est sorti, mais c'est un truc de dingue quand même ce livre. La VAR, le miroir aux alouettes. Incroyable. Ça
marcherait pas. Vous l'avez pas écrit il y a 10 ans.
Ça ne marcherait pas, dis donc.
Il n'a pas déjà été invité dans l'émission, ce monsieur?
Oui, mais c'était pas pour le même sujet.
Mais c'était pas la VAR?
Non, pas du tout. Il parlait de l'histoire des règles du football.
Il est
Ludovic Tenez. Il sera avec nous tout à l'heure. Sans oublier, bien sûr, toute l'actu du jour. On va parler de l'équipe de France longuement. Et puis, tiens, à 22h, le fameux Tiens Mohamed, le fameux hashtag VentOM. On va avoir un spécialiste des réseaux sociaux qui va venir nous décrypter ce qui se passe. Et tu vas voir que les mécanismes de ce hashtag VentOM s'apparentent assez aux mécanismes du complotisme.
Ah. Eh ben, très bien, on va écouter ça avec attention.
Non.
Demain, Top of the Food est de retour à 18h, spécial France-Bulgarie. Dernier match de prépa des Bleus avant l'Euro. À demain.
Retrouvez Top of the Foot en podcast
dès maintenant sur rmc.fr.